Bonjour, mon nom est Charlson, je suis externe à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler des cancers de la peau. Dans ce podcast, nous allons aborder les trois cancers cutanés les plus fréquents dans la population, c'est-à-dire le mélanome, le carcinome sinocellulaire et le carcinome basocellulaire. D'abord, nous allons revoir rapidement l'épidémiologie et la pathologie de chaque, pour ensuite surtout s'intéresser à leur tableau clinique et comment les différencier l'un de l'autre. Finalement, nous allons discuter des traitements et du pronostic pour chacune de ces conditions. Donc, commençons sans tarder par discuter du mélanome. Sans être le cancer cutané le plus fréquent, il est certainement le plus mortel, en raison de son potentiel élevé de métastases. Un individu sur 5 ans va être touché au courant de leur vie, et c'est 1% de tous les décès qui lui est attribué. Heureusement, une détection précoce permet de réduire de beaucoup la mortalité. Comme le nom l'indique, c'est un cancer qui vient des mélanocytes responsables de la pigmentation de la peau, et on lui associe fortement l'exposition aux ondes UV et une peau plus pâle. On retrouve aussi un côté génétique à cette maladie, donc c'est très pertinent d'explorer les antécédents familiaux chez les patients concernés. Par ailleurs, un névus ou un grain de beauté est un foyer potentiel de mélanome et donc c'est logique que les individus qui en ont plus sont davantage à risque. Passons maintenant au carcinome basocellulaire, qui est le cancer le plus fréquent au niveau de la peau, la fréquence à vie étant de 30% par individu. Il touche surtout les personnes plus âgées et de race blanche, donc avec une peau plus pâle encore une fois, il est aussi associé aux rayons UV. Généralement non métastasique, il origine des cellules souches pluripotentes dans les couches profondes de la peau. Pour ce qui est du carcinome spinocellulaire, il compte pour environ 20% des cancers cutanés, et il est associé à peu près aux mêmes facteurs de risque que pour la basocellulaire. D'origine kératocytaire cette fois-ci, est aussi associé à la kératose actinique et à un faible risque dans les 2% de métastases. Maintenant que nous avons établi les bases sur ces trois cancers, discutons de leurs caractéristiques cliniques. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'aller voir des images, que ce soit sur Internet ou encore une fois dans vos livres, pour avoir une idée de quoi ils ont l'air. C'est extrêmement important parce que la différenciation se fait surtout d'après l'évaluation visuelle. Commençons d'abord par le mélanome, qui contrairement aux deux autres est une lésion pigmentée. Le patient rapporte souvent la présence d'un grain de beauté là où le cancer est suspecté. Donc pour différencier un simple névus du mélanome, utilisons le système ABCDE. A pour asymétrique, B pour bordure inégale, C pour plusieurs couleurs, D pour un diamètre de plus que 6 mm et E pour une évolution de la lésion cutanée. La présence de ces facteurs devrait nous faire suspecter un mélanome. Dans un état plus avancé, le mélanome peut aussi être douloureux et saigner, mais l'absence de ces deux éléments ne l'élimine pas du différentiel diagnostique. Il y a plusieurs types de mélanomes, mais mentionnons surtout l'acro-lentigineux, qui est plus souvent présent chez les individus avec la peau foncée et c'est le seul sous-type non associé aux rayons UV. Il va souvent se cacher dans les faces palmaires et sous-inguales et donc a plus tendance à échapper à la vigilance du clinicien. La basocellulaire, elle, ressemble davantage à une papule rosée, souvent avec le creux plus enfoncé que les rebords. Cela fait contraste à la spinocellulaire qui a une apparence plus érythémateuse et peut même se présenter comme une ulcère. Le lieu de la lésion peut aussi nous aider. Les basocellulaires se situent plus souvent à la lèvre supérieure et plus haut, tandis qu'en bas de ça, on retrouve plus souvent des spinocellulaires. C'est certainement pas une règle absolue, mais ça peut aider à orienter le clinicien. En cas de lésion suspecte, le diagnostic final par biopsie est évidemment indiqué. Parlons maintenant des traitements pour chaque type de lésion. Pour le mélanome non métastatique, le traitement standard est l'excision chirurgicale. Dépendant du grade et de l'épaisseur de la tumeur, différentes marges vont être recommandées. Pour un mélanome in situ, c'est 5 mm. Pour une épaisseur de moins d'un millimètre de breast low, c'est 1 cm. Et pour une épaisseur de plus de 4 mm, c'est 2 cm. Entre 1 et 4 mm, le chirurgien peut prendre de 1 à 2 cm. Il peut aussi effectuer une biopsie des ganglions lymphatiques sentinelles, donc qui drainent le territoire de la tumeur primaire, si le mélanome a plus de 1 mm de breast low ou entre 0,75 mm et 1 mm, avec d'autres facteurs de mauvais pronostic, comme l'ulcération ou un index mitotique élevé à l'histologie. Quand faire des investigations pour éliminer des métastases, comme le rayon X pulmonaire, mesurer le LDH ou encore un TEPSTAN, est un sujet controversé, mais en général, c'est indiqué si la lésion est plus de 4 mm de breast low ou des métastases ganglionnaires sont présentes. On peut aussi donner comme traitement complémentaire à la chirurgie de l'interféron alpha sur un an pour les mélanomes à haut risque, mais il faut tenir en compte des effets secondaires importants de cette thérapie. Dans le cas d'un mélanome métastatique, le traitement recommandé est l'immunothérapie, soit par des grandes doses d'interleukine 2 ou par l'ipilimumab. Si la tumeur a la mutation V600BRAF, les inhibiteurs BRAF peuvent être donnés pour augmenter la survie du patient. Allons maintenant voir les options thérapeutiques pour le carcinome basocellulaire. Les options sont beaucoup plus nombreuses que pour le mélanome. On peut le traiter par cryothérapie, radiothérapie, curetage, de la chimiothérapie locale ou encore par une excision chirurgicale. La microchirurgie de Mohs, M-O-H-S, est une technique spécialisée minimisant la quantité de tissu normal excisé et qui peut être utilisée. Une évaluation histologique est effectuée en parallèle avec la chirurgie pour s'assurer de ne pas exciser du tissu sain ou de manquer du tissu néoplasique. La chirurgie de Mohs est surtout utilisée dans les cancers à haut risque de récurrence au niveau du visage, là où une excision avec des marges standards n'est pas idéale pour le patient. Le taux de guérison est très impressionnant et d'environ 90 à 99%. Pour le carcinome spinocellulaire, les mêmes modalités de traitement que pour le basocellulaire s'appliquent. Encore une fois, le taux de guérison est excellent et il tourne autour de 90%. Dans tous les cancers de la peau, un suivi étroit pour des récurrences ou des nouveaux cancers est absolument vital. Le spinocellulaire et le basocellulaire ont tous les deux des deux taux de récurrence de 10 à 15% sur 3 ans, donc il ne faut pas négliger le suivi de ces cancers. En plus, les patients atteints ont souvent les mêmes facteurs de risque que pour le mélanome, donc une exposition au soleil et la peau pâle, ce qui en fait une population particulièrement à risque et qui est important de faire un suivi adéquat. Au niveau de la prévention, la protection contre le soleil devrait être discutée avec le patient, notamment ceux qui ont des facteurs de risque élevés. Une crème solaire de plus que 15 FPS contre les UVA et les UVB est suggérée, en plus de minimiser l'exposition au soleil, surtout durant la mi-journée quand le soleil est au plus fort. L'auto-examen de la peau pour le dépistage est controversé. Elle n'est pas efficace pour les carcinomes baso- ou spinocellulaires, mais certaines études ont démontré une détection plus précoce dans les cas de mélanome. Les patients avec des facteurs de risque ou qui ont des névis atypiques devraient avoir un suivi dermatologique serré avec des séries de photos comme documentation d'un rendez-vous à un autre. Donc sur ce, nous avons fait un survol rapide des cancers de la peau les plus fréquents dans la population. Nous vous invitons aussi à lire sur les tumeurs bénins de la peau et toute autre lésion cutanée pour pouvoir les différencier des cancers cutanés mentionnés ici. Alors, je vous remercie de votre écoute.